Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGuayeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
On a vu hier à Québec ce point de presse avec Justin Picard des Premières Nations, mais aussi Québec solidaire, le Parti libéral, parce que les leaders autochtones veulent absolument que le projet de loi 96 ne s'applique pas, entre autres les fameuses clauses concernant les cours obligatoires de français au cégep. Luc?
Franchement affligeant. On peut comprendre que il y ait des aménagements à faire à la loi, comme par exemple s'assurer que les élèves autochtones des Premières Nations n'aient pas à passer le test uniforme de français, qui est très difficile. Et ça exige pas juste trois cours, là, ça exige énormément de temps là, dans ton cursus scolaire au cégep. Je pense d'ailleurs que c'est le cas. Je pense que ce sont des ayants droit, mais je suis pas certain. Donc, il faudrait s'assurer qu'ils aient pas à le passer. Ceci étant dit, ils ont eu, même s'ils sont dans les commissions scolaires anglophones, même s'ils vont dans les cégeps anglophones, il y a des cours de français. Ils ont pas été ignorants du français pendant tout leur cursus scolaire. Et de passer trois cours en français me semble vraiment pas une demande extraordinaire. Il la présente comme si c'était, tu sais, les grands mots, le colonialisme, le ci, le ça, on va pas faire ça pour servir le nationalisme québécois. Plusieurs choses. Premièrement, c'est pas pour servir le nationalisme québécois. J'en rajoute une. Il dit, ça serait vraiment le bout du bout qu'un étudiant soit obligé de quitter le territoire pour aller dans une autre province pour pouvoir être servi en anglais seulement. Mais voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Tu traites quoi, les Autochtones comme les Premières Nations, comme s'ils vivaient dans des réserves encore, qui sortiront jamais, qui seront jamais en contact avec des Québécois? Un instant, là. Tu fais trois cours de français dans ta vie, là. Penses-tu vraiment que tu vas être capable de faire autre chose que commander un hot dog et une patate? Tu seras pas capable de faire plus que ça en français, là. Ça veut dire que toute leur vie, les Français vont devoir faire un accommodement, vont devoir aller vers toi, vont devoir te comprendre, se plier à ta langue. C'est correct. C'est bien correct. Mais il y a un petit partage, là. On s'attend à ce qu'il y ait un petit partage, ou au moins bonjour, au revoir, merci, ou alors formuler une requête simple. Si tu vis au Québec, tu veux pas. Regarde, là, au début de la semaine, il y a eu la première équipe CRI qui a participé au tournoi Pee-Wee de Québec. Magnifique. Même tout le monde se réjouit. Tout le monde ils ont été applaudis chaleureusement. Ils ont été accueillis chaleureusement. Wow! Écoute, ils ont un territoire de 900 kilomètres. Puis ils réussissent à former une équipe assez bonne pour aller au tournoi. Puis ils gagnent. Ils ont gagné leur première partie. Tout le monde est content de les voir. Puis eux sont très contents d'être là. Tu vis dans une communauté. Tu vis dans un pays qui parle français. Boswell, la moindre des choses, c'est de faire un petit effort. Tu resteras pas. Il y a 20% des Autochtones qui vivent à Montréal. 20%. 1 sur 5. On n'est pas dans des gens qui restent pognés dans leur espace, là. On est dans des gens qui... On va vouloir qu'ils s'épanouissent, qu'ils traversent le territoire, qu'ils veulent contrôler leur police. Parfait. Ils veulent contrôler leur DPJ. Parfait. Ça va exiger des contacts avec les autres polices du Québec. Ça va exiger des contacts avec le gouvernement du Québec. Ça va exiger de recruter du personnel qui va aller travailler là-bas. D'être... Tu veux pas... Toi, tu recrutes quelqu'un là, qui vient du Québec, une francophone, qui s'en vient travailler pour la DPJ d'une Première Nation. Tu veux pas lui dire trois mots en français. Tu veux pas. Voyons donc.
Nathalie.
Ben moi, plusieurs choses. La première, c'est que voilà l'exemple parfait de ce que peut faire le nationalisme identitaire de la CAQ. Plutôt que de rassembler, il divise puis provoque des confrontations inutiles. Parce que ce que je me désole, c'est de voir le ministre Simon-Jolin Barrette se fermer comme une huître. Parce que ce que les leaders des Premières Nations demandent, effectivement, c'est de dire, ben nous, on souhaiterait exempter, comme tu l'as dit, Luc, de ces nouvelles obligations qui s'ajoutent si un jeune anglophone ou autochtone fréquente un collège anglophone au Québec. Alors, non seulement il va devoir suivre des cours de français langue seconde, mais on ajoute à ça cette autre obligation qui est de dire, vous allez en plus suivre trois cours qui sont enseignés en français. Par exemple, philo, maths, histoire. Fait qu'imaginez, tu es anglophone, tu maîtrises peu la langue française.
Mais là, ils ont déposé un amendement là-dessus, non? Ils n'ont pas déposé l'amendement qui fait en sorte que c'est pas la matière qui est enseignée, mais plutôt le français, comme un cours de français de plus.
Ouais, ben peut-être, mais n'empêche, au total, là, au final, là, ça ne convient pas. L'exigence est trop importante pour certains anglophones et pour certaines communautés des Premières Nations. Moi, je me dis, oui, je suis d'accord avec le fait qu'on protège davantage notre langue française, mais en même temps, pourquoi le faire en se mettant en dos les anglophones et les autochtones? Parce que chez les Premières Nations, c'est pas toutes les Premières Nations qui s'expriment dans leur langue maternelle et en anglais. Il y a plusieurs Premières Nations au Québec. Si vous allez, par exemple, Manawan, Obedjouan, c'est tous ces gens-là s'expriment très bien en français. Les Mi'kmaq, moi, je connais les Mi'kmaq, ils sont en Gaspésie. Il y a trois communautés Mi'kmaq en Gaspésie. Gaspeg, à Gaspé, ils parlent parfaitement français. Par contre, celle de Restigouche et de Maria, ils parlent Mi'kmaq et anglais. Alors, c'est pour ces Premières Nations que certains leaders ont dit, ben écoutez, est-ce qu'on pourrait pas avoir une forme d'amendement ou d'exception? Le ministre a dit, il n'y en est pas question. Tout le monde va être traité de manière égale. Moi, ce que je dis, est-ce qu'il y a quelconque gouvernement qui s'insurge du fait que les Cris, les Inuits parlent anglais? Parce que c'est ça la réalité. Quand vous rencontrez le grand chef du conseil des Cris, le chef du grand conseil des Cris, Mathieu Kuncombe, il ne parle qu'anglais dans ses conversations, dans ses relations avec le gouvernement. Fait que les ministres parlent anglais à Mathieu Kuncombe. Même chose si tu t'en vas en territoire inuit. Alors moi, je me dis, puis en passant, accorder cette exception, cette exemption que demandent certains leaders autochtones, en quoi ça menacerait la langue française? Est-ce qu'on peut me le dire? Puis t'as raison, Luc, il y en a qui se débrouillent très bien. Aller au lac Saint-Jean, la communauté là de Mastoyache, là-bas, les Innus de la Côte-Nord, ouais. Métabetchouan, ils sont effectivement, ils vivent en français, ils consomment en français, mais moi, je trouve que de mettre tout le monde dans le même panier sans tenir compte du caractère de certaines, du caractère culturel de certaines communautés, ben c'est comme de jeter le bébé avec l'eau du bain. Et je trouve que c'est ouvrir des fronts qui sont totalement inutiles. Et à la limite, savez-vous quoi? Irrespectueux. Puis d'ailleurs, là-dessus, le gouvernement devrait donner un petit peu plus d'oxygène au ministre Yann Lafrenière, parce que le pauvre ministre Yann Lafrenière, il fait juste annoncer des mauvaises nouvelles avec les Premières Nations. Parce qu'il semblerait qu'il n'y a rien qui se règle. Le gouvernement dit non au principe de Joyce pour ce qui est des services en santé et services sociaux. Le gouvernement a refusé de tenir compte de la vision des Premières Nations en matière de la loi de la protection de la jeunesse. Alors, demandez, tu dis, attends une minute, là, c'est les Premières Nations, est-ce qu'ils sont des partenaires? Est-ce qu'on peut les traiter comme des partenaires à part égale ou au contraire, on les traite comme tout le monde, finalement?
Luc, tu seras pas surprise de savoir que j'ai pas du tout la même lecture que toi, puis que moi, je suis fâché de voir que Ghislain Picard, qui a une connaissance extraordinaire du Québec, qui parle d'ailleurs français comme un dictionnaire, est magnifique, il sait ça, lui. Il sait que c'est pas juste du nationalisme québécois identitaire là, d'avoir trois cours de français, c'est que t'en as besoin dans ta vie. C'est juste ça. Et, écoute, tu le sais, Nathalie, il y a des nations qui sont comme les Innus de la Côte-Nord, qui ont des gens d'affaires, qui ont une communauté d'affaires extrêmement prospère, capable, oui. Qui veut s'étendre dans tout le Québec.
Ils parlent trois langues. Mais parfait, leur langue maternelle, anglais, français.
Mais c'est ça l'exemple. C'est ça l'exemple à suivre. C'est de dire, oui, puis en plus, là, au cégep, là, tu me feras pas croire qu'au cégep, ils vont te faire lire Proust dans le texte. Là. Je veux dire, on est tous allés au cégep, là, les trois cours de français, je penserais pas qu'il y a quelqu'un qui va écouler. Fait que c'est juste un effort d'aller vers l'autre un petit peu. Parce que cette histoire-là de dire... Nous autres, on est les miséreux de l'histoire. Vous êtes les colonialistes. C'est vrai.
Non.
C'est vrai. Oui. C'est totalement vrai. Il n'y a pas plus victimes de vraies victimes que les Premières Nations. Mais tu peux être à la fois être hyper colonisé, hyper défavorisé par l'histoire et participer au colonialisme. Quand tu dis, moi, c'est soit j'apprends pas un maudit mot de français pendant que je suis au Québec, soit je m'en vais étudier ailleurs. Wow!
Non, mais là où je n'achète pas l'argument de certains leaders, c'est de dire que la façon de faire du gouvernement contribue à un génocide culturel chez les Premières Nations. Là, honnêtement, à peu près tout le monde au Québec a décroché, là, parce que tu dis c'est comme trop fort poussé sur le bouchon. Mais fondamentalement, Luc, comment se fait-il, parce que c'est le rôle d'un ministre, de mener une de mener la bataille pour une loi aussi importante que l'amendement de la loi 101, est-ce qu'on pourrait pas le faire avec plus de comment dire, sans susciter la polémique comme on l'a suscité?
OK, attends, Nathalie, je suis d'accord avec toi, mais.
Ben non, mais c'est parce que
Attends, t'as raison, sur le fond, il va falloir qu'ils s'entendent sur quelques aménagements. Est-ce que tu penses que le problème, tu dis, la façon dont ils ont été reçus est terrible. Est-ce que la façon dont ils se sont présentés est terrible? Est-ce que toi, si t'étais ministre, là, on t'en vient dire que tu fais du génocide culturel puis que je vais aller étudier dans une autre langue. Est-ce que tu dis vous avez raison, assoyons-nous, discutons.
Non, je l'ai dit, Luc, on n'achète pas ça, voilà. Ce genre d'argument. Ben, c'est pas le genre d'argument qui te permet de dialoguer et d'entreprendre une véritable conversation.
On s'arrête là-dessus. Au retour, on va parler de la nouvelle directrice, puis qui n'est pas juste nouvelle, c'est la première femme qui va diriger le SPVM.
La commission Normando-Ferrandaise.
Donc, Sophie Roy est la première femme à diriger le service de police de la Ville de Montréal. Nomination par intérim, mais quand même, c'est un geste important qui a été posé. Et la grande question, est-ce que, puisqu'elle est la première femme, ça s'avère une tâche plus difficile même encore aujourd'hui? Nathalie.
Ben Paul, je vais la citer, Sophie Roy, qui était à ton micro un peu plus tôt ce matin. Elle a dit « On est ailleurs ». Elle dit « Je ressens davantage de fierté que le poids qui est associé au fait que je sois la première femme à la tête du SPVM ». Moi, je fais la vague. Je dis « Wow, quelle bonne nouvelle d'entendre ce genre de réponse de cette femme ». Parce que il faut dire qu'au Québec, on est précurseur pour ce qui est du nombre de femmes dans la police. Juste au SPVM, là, il y a 33% des policiers qui sont des femmes. Si on compare à d'autres provinces, c'est vraiment au Québec, on est champion de la présence féminine au sein des corps policiers. Par contre, il y a encore très peu de femmes qui sont chefs de police. Au Québec, on a Joanne Beausoleil à la tête de la Sûreté du Québec. On a à Repentigny, Hélène Dion, qui est chef là-bas. Puis on a aujourd'hui Sophie Roy. Alors, dans ce sens-là, j'étais très heureuse d'entendre cette nouvelle chef. Et moi, je la connais pas très bien, mais j'ai entendu de très belles choses sur elle. Mais je me suis dit, quelle femme ce matin, parce que elle est la première femme, oui, mais ce qui facilite son arrivée, bien qu'elle assume l'intérim au SPVM, c'est son expérience et le fait que elle a 34 ans d'expérience à son actif et le fait que son arrivée se fasse dans un contexte de consensus. Elle est très consensuelle. Alors ça va énormément faciliter son travail au cours des prochaines semaines et prochains mois.
Et j'aimerais ajouter une statistique, Nathalie, à ce que tu as dit.
Oui,
C'est que on est à 32% actuellement, ça c'est une mesure de 2016, mais le recrutement ces dernières années est exceptionnel. 42% en 2018 et 2019 et encore plus par la suite. Donc, on se dirige vers une police vraiment moitié femme, moitié homme. D'ailleurs, il va falloir changer tout le vocabulaire quand on dit les bœufs sont arrivés. Est-ce qu'on va dire... Quand on dit les poulets, est-ce que... Comment qu'on va faire à cette heure pour discriminer la police? On va être dur, hein?
Mais tu sais que Yves Francaire, le président du syndicat, nous a dit la semaine passée que jusqu'à tout récemment, il n'y avait pas encore de veste pare-balles adaptée aux femmes.
Absolument, tout à fait.
Écoute, j'en revenais pas.
Ben oui,
on est en 2022.
Ben, c'est ça que je te dis. Moi, je pensais que c'était une affaire réglée depuis longtemps. Ça a l'air que non.
Brenda Luckey, qui a été nommée à la tête de la GRC en 2018, a dit la même chose pour ce qui est des gilets pare-balles.
Alors, aux États-Unis, c'est à peu près 20 %. Puis, effectivement, quand tu dis que ça percole pas vers le haut, c'est seulement 13 % dans les postes de gestion. Mais là, il y a une femme qui a été élue chef de la police de New York. Et en plus, une femme noire. C'est la première. C'est Keisha Sewell, je l'ai ici, qui a 49 ans. Et donc, première femme, troisième noire, imagine-toi. Donc, ça change pour le mieux. Réjouissons-nous. Ceci étant dit, Mme Roy arrive dans un climat particulier, un contexte particulier, c'est-à-dire que Mme Plante s'est dotée d'un directeur adjoint en la personne de Martin Prudhomme. Et ce que ça veut dire, ça, c'est que le commandement va partir de Mme Plante pour aller vers M. Prudhomme, qui, lui, va substantifier ses demandes, il va les encadrer, les paramétrer, il va les envoyer à Mme Roy. Donc, Mme Roy va se retrouver plus dans un rôle d'exécution au niveau des initiatives. Ce sera pas la police qui va monter des initiatives vers le haut, ou moins, en tout cas, ça va être plus le contraire. Sauf qu'il lui reste un rôle...
Moi, je suis pas en désaccord avec toi là-dessus.
Parce que qu'est-ce qu'il va faire, Prudhomme, lui?
Non, mais je te dis ça parce que elle, ce qu'elle dit, c'est que Sophie Roy, c'est que la responsabilité publique, c'est une responsabilité qui se partage. Puis elle dit, faut établir des ponts avec les autres acteurs. Ça vaut pour la lutte à la violence armée, mais elle ne voit pas. J'ai pas l'impression qu'elle voit Martin Prudhomme comme un adversaire ou comme.
Non, je dis pas ça.
Tu comprends?
Moi, ce que je dis, c'est que le pouvoir d'initiative, à mon sens. Autrefois, il était sans partage à la police. La police, elle faisait une requête. Regarde, avec M. Caron, il en a fait deux requêtes fortes. Là, il voulait avoir 250 policiers de plus, puis il voulait avoir réduire les postes de quartier. Un troisième en plus, parce qu'il voulait avoir une fusion de certaines activités avec le service de police de Longueuil puis de Laval. Ces trois requêtes ont été refusées. T'es arrivé au bureau de Mme Plante, non merci, au revoir. Okay?
Non, mais ça, c'est une décision politique. C'est politique qui a dit non, là, tu comprends?
Oui, c'est ça. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y avait un pouvoir d'initiative qui était sans partage. C'est pas Mme Plante n'avait pas un pouvoir d'initiative de la police. Pas les connaissances sur la police. Là.
Ça a toujours été comme ça, Luc.
Oui, mais ça ne l'est plus depuis un mois, mais depuis quelques semaines. Avec Martin Prudhomme au poste de directeur adjoint, sous le directeur général de la Ville de Montréal, le pouvoir d'initiative va résider là.
Mais ce n'est pas une façon d'améliorer l'image de la mairesse à l'égard des policiers. C'est-à-dire que, c'est un secret de polichinelle, les policiers de Montréal, ils atrocent pas ben, là. Tu sais, quand tu présentes Will Prosper, quand ton parti pousse pour réduire le financement de la police...
Quand tu demandes une enquête indépendante pour Camara le jour même.
Tu comprends, là, c'est... Là arrive Martin Prudhomme, c'est comme dire, regardez, là, j'ai quelqu'un de votre gang.
Oui, moi, je pense que ça fait partie du projet. Mais ce que je veux dire, c'est que Mme Roy, oui, va travailler en collaboration avec ces gens-là, sauf avec Mme Plante puis M. Prudhomme. Mais il y a dorénavant un directeur adjoint qui formule des initiatives de police directement en dessous du directeur général.
Oui, mais en concertation avec la chef de police. Parce que Martin Prudhomme, c'est lui qui a assumé l'intérim à Montréal un temps. Rappelez-vous, il a fait des recommandations pour améliorer le service de police de la Ville de Montréal. Enfin, on n'a pas tout à fait la même vision des choses. Moi, c'est un plus que Martin Prudhomme arrive au SPVM. Mais j'ai trouvé cependant les réponses de Sophie Roy extrêmement rassurantes. Lorsqu'elle dit, par exemple, pour ce qui est de la violence armée, elle dit, la violence armée, là, les coups de feu, c'est la pointe de l'iceberg, mais le problème, il est social. Tu te serais peut-être attendu à certaines... Il y a quelques années, on aurait entendu de la part du chef de police, ben, ça nous prend plus d'effectifs, ça nous prend plus de ressources. Ça dit non, il faut travailler autrement. Elle incarne, je trouve, à elle seule, cette espèce de police à laquelle on aspire pour le futur. Une police qui est davantage collaborative, une police plus, tu sais, qui se détache de la vision de la répression, de la confrontation. Et puis moi, je trouve formidable. Elle a un rôle intérimaire. Puis remarque, Paul, tu lui as posé la question si le poste m'intéressait. On s'entend pour dire qu'elle n'a pas dit oui, puis elle n'a pas dit non.
Non,
là.
Mais compte tenu de ses défis à relever, tu fais pas ça sur une base intérimaire, là.
Non, mais en même temps, elle a dit, je veux assurer une transition saine. Fait que je trouve ça absolument formidable. Elle a une préoccupation non seulement pour sa successeur, mais elle dit aussi, à Montréal, il n'y a pas un policier qui n'est pas concerné par ce qui se passe avec la violence armée. Alors, moi, je suis policier au SPVM, je dis, ben voilà. Parce que les policiers, on a tendance à l'oublier, mais ce sont des êtres humains d'abord et avant tout. Qui souvent n'en peuvent plus là de se retrouver sur les réseaux sociaux pointés du doigt lorsqu'ils doivent faire leur travail. Parce que la police va toujours demeurer la police, c'est-à-dire celle de faire appliquer la loi, d'incarner l'ordre.
Maintenant, elle a deux rôles à faire. T'sais. Elle a le rôle, comme tu l'as dit, de pousser les politiciens à remonter plus loin que le coup de feu. Bien avant le coup de feu, elle l'a dit, c'est 5 ans avant le coup de feu ou 6 ans avant le coup de feu, il faut que tu interviennes. Cette personne-là, c'est pas radicalisée en un jour. Et ça, c'est pas juste des ressources de police. Et donc, cette image d'une police intelligente qui est capable de faire des interventions sociales dans le Bravo. Et après ça, l'image de la capacité d'intervenir sur les gangs de rue et sur la violence armée, parce que ça monte. Et donc, d'être capable d'avoir... cette fois-là, on enlève le gant de velours. Là, c'est la main de fer. C'est-à-dire, c'est vraiment, la police doit montrer sa capacité de saisir des armes, d'arrêter des personnes qui tirent et de rétablir le calme. Alors, c'est un rôle à deux, c'est tout un défi. Hein. C'est un rôle à deux volets, puis les deux volets semblent se contredire. Là. Ça va être difficile de naviguer. Moi, je pense qu'elle a la personnalité pour le faire.
Très bien. Merci à tous les deux. On vous retrouve demain.